Geoffrey Dorian, Olivier Dallage.
Étudiant contestataire au début des années 60, emprisonné à deux reprises pour ses activités politiques, il s'exile en France pour poursuivre ses études avant de revenir au pays à la faveur d'une révolution et de devenir le tout premier président de la République de l'histoire de l'Iran. Portrait d'Orient reçoit aujourd'hui Abolhassan Banisadr. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né en 1933 à Hamadan, dans le nord-ouest de l'Iran, une ville qui un temps a d'ailleurs été la capitale de la Perse. Et puis, en 1953, l'année de vos 20 ans, il se passe un événement en Iran qui va avoir de très profondes répercussions. Le premier ministre Mossadegh, qui avait nationalisé l'industrie du pétrole, qui était alors contrôlée par les Britanniques, est renversé par un complot de la CIA qui remet sur le trône le Shah d'Iran. Comment avez-vous vécu ces événements ?
J'étais à Hamadan. Justement, j'étais chez un instituteur qui me apprenait l'anglais. Alors, mon père avait envoyé quelqu'un me chercher, parce que la ville était très, très agitée. Alors, je suis rentré. Il n'y avait autre moyen que la radio pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est la radio qui annonçait que Fatimi a été assassiné, Moussadegh a été arrêté, Zahedi a envoyé son premier message. Tout ça, très bouleversant, alors incroyable. Comment c'est, tout ça était possible? Malheureusement, c'était possible.
Vous aviez déjà des opinions politiques ou c'est cet événement qui vous a précipité?
Non, j'avais des opinions politiques. J'étais pour ça de risque. Je suivais le Front National, c'est-à-dire l'ensemble des partis qui soutenaient Mossadegh. J'étais tout à fait actif politiquement.
Et les années suivantes, vous êtes encore plus actif, puisque dans le mouvement étudiant contestataire qui soutient Mossadegh, qui résiste au Shah et à son premier ministre, vous êtes actif et au début des années 60, ça vous vaudra même d'aller deux fois en prison.
Oui, disons, il y a une période de presque silence. Les activités politiques se déguisaient sous différentes formes, par exemple les réunions littéraires. Les étudiants se réunissaient pour débats littéraires ou religieux.
Et la police ne le savait pas?
Ils le savaient, ils n'avaient pas prétexte de l'empêcher. Mais au-dessus, c'était politique. On se réunissait pour parler de la littérature, mais en fin de compte, on parlait de la politique.
Et votre objectif à l'époque, c'est le retour de Mossadegh, c'est le renversement du Shah?
C'était à l'époque, d'abord au premier jour, on disait que le coup d'État ne peut pas survivre, donc la résistance permet de renverser Shah Zahedi. Après, on a compris que non, c'est pas aussi facile que ça. Donc, il s'agissait d'une lutte à long terme.
Alors, 10 ans après le renversement de Mossadegh, il se passe quelque chose. Un personnage dont on parlera beaucoup par la suite, l'ayatollah Khomeini, lance un mouvement de contestation très fort contre le Shah. Et c'est un quasi-soulèvement en juin 63.
À ce moment-là, notre rôle, c'était de participer dans ce mouvement, bien sûr, mais surtout d'aider les blessés en les emmenant vers les hôpitaux et en préparant une riposte populaire. Ce qui a eu lieu, c'est-à-dire que nous avons préparé une grève générale pour première semaine de cette journée. Ce que les journalistes voulaient rentrer parce qu'ils disaient oh, c'est fini, c'était un soulèvement. Le lendemain, tout est calme. Nous avons demandé à ces journalistes de rester encore. On va voir si cette grève générale se réalise ou pas. Si se réalise, alors le régime du Shah, c'est fini.
Mais l'histoire montre que ce n'est pas ça qui s'est produit.
Si, la grève était vraiment très générale.
Oui, mais le Shah était toujours là à la fin de l'année 63.
Oui, mais déjà, le mythe était brisé. C'est un peuple qui disait non, pas seulement au Shah. À la dynastie. Ça, c'était pas Khomeini qui l'a fait. C'était les étudiants Mossadeghistes qui ont préparé cette grève générale. Très réussi. Dans l'ensemble de la ville de Téhéran, il n'y avait pas même un boutique ouvert.
Alors pourquoi ça a échoué à la fin?
Ça a échoué parce que, imaginez-vous, que Khomeini est entré sur la scène politique disant que c'est l'islam qui est prioritaire à tout le reste. Liberté, indépendance, tout ça c'est secondaire. Priorité des priorités, c'est l'islam. C'était sa thèse. L'échec de ce mouvement, c'était à cause de cela, parce que en instant vite de l'indépendance, vite de liberté, vite de droit de l'homme, c'est quoi ça?
Donc à l'époque, en fait, vous n'êtes pas du tout proche des thèses de Khomeini?
Non, non.
Est-ce que vous imaginez que quelques années plus tard, vous allez devoir travailler avec lui?
Oui, ça, à l'époque, oui, parce que Khomeini, même à ce moment-là, il a montré quelque chose de lui-même qui, chez les autres religions, n'existait pas. C'est-à-dire la capacité de s'adapter à la réalité.
Vous quittez l'Iran pour poursuivre vos études en France. C'était pour des raisons purement universitaires ou parce que vous pensiez que si vous restiez en Iran, vous seriez mis en prison?
Docteur Siyasi était d'abord recteur de l'université d'Iran, mais à l'époque, c'était doyen de la faculté des lettres. Il m'a convoqué un jour chez lui. Il a dit que, étant donné qu'il était ami de Pakravan, qui était directeur de Savak Tusha, il a dit que mes informations m'assurent que vous allez être arrêté et condamné. Et étant donné que je vous aime en tant qu'une compétence, j'ai deux bourses de l'université Sorbonne. Je vous donne un de ces deux et vous pouvez partir pour la France. Et je lui ai dit que je n'ai pas le passeport. Comment voulez-vous que je parle? Et il m'a dit que Pakravan est mon ami, général Pakravan. Je lui demanderai un passeport et j'obtiendrai pour vous un passeport.
Donc vous voilà étudiant à la Sorbonne, vous poursuivez vos études et en même temps vous poursuivez vos activités politiques.
Pendant toute ma vie politique, j'ai essayé de le faire à travers mes activités scientifiques. Sauf qu'ici à Paris, la police m'a dit que vous êtes sur l'arbitre. Donc, à chaque moment, je pouvais être expulsé. C'est pourquoi j'ai jamais pu défendre ma thèse jusqu'à la retour de l'Iran. Tout d'un coup, on était en train d'écrire la thèse, mais la révolution nous a surpris.
Alors, l'histoire s'accélère, la révolution commence à entrer en marche dans le courant de l'année 78. Ça coïncide avec l'expulsion d'Irak de l'ayatollah Khomeini qui vient s'installer en France, en région parisienne. À partir de quel moment vous entrez en contact avec son équipe?
Son fils m'a téléphoné disant que vous cherchez pour mon père un appartement. Pourquoi? Vous allez venir ici en France? Oui, on va venir en France. Nous sommes obligés de venir. En France, c'est pas facile, on ne peut pas, dans quelques heures, trouver un appartement. Bon, un ami avait un appartement proche de moi. Alors, je lui ai demandé d'évacuer son appartement et aller vivre ailleurs. Et le lendemain, Khomeini est venu à Paris.
Et donc, dès son arrivée, vous êtes proche de Khomeini et de son entourage. Et vous devenez progressivement son conseiller pour les affaires économiques. Quel est votre rôle exactement dans l'équipe?
Disons qu'on était proches avant même. J'étais ici en France. Et en France, pour un chef religieux chiite, c'est pas une bonne place, Paris. Il était très inquiet. Il a téléphoné à son frère disant que il est entré en France et son hôte est panissâtre. Son frère, il a donné un interview. Soyez calme. Il n'est pas entré, par exemple, à n'importe où. Il est chez panissâtre. Après, il a fait une commission de 6 personnes pour que prépare les réponses qu'il doit donner aux questions posées par les journalistes. J'étais membre de cette commission-là.
Alors, depuis Naufle-le-Château, l'ayatollah Khomeini envoie ses mots d'ordre, ses cassettes, les gens viennent le voir, vous êtes dans cette équipe, et encore une fois, l'histoire s'accélère. Au début de l'année 79, le Shah quitte le pays, et la question du retour en Iran se pose. Le 1er février 1979, un avion spécial d'Air France ramène Khomeini à Téhéran et vous êtes dans cet avion.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez ressenti en arrivant à Téhéran? Je vous pose la question parce qu'un journaliste du Monde qui voyageait dans l'avion a posé la même question à Khomeini et qu'il a répondu « Je ne ressens rien du tout ».
Pour nous, c'était le plus beau moment de mon vie jusqu'à maintenant. Entrant en Iran libre et voyant un océan de jeunes.
D'ailleurs, on se demandait si l'avion pourrait atterrir.
Voilà, oui, c'est ça. Alors, bon, et tout gai, confiant de visage.
On avait dit aussi que peut-être l'armée du Shah allait tirer sur l'avion.
Ici, oui, il s'agissait de cela. Le danger d'amener l'avion vers le sud du pays et arrêter tout le monde, ou bien même tirer sur l'avion. Et c'est pourquoi Khomeini nous a demandé de chacun de donner son avis. Est-ce qu'il faut aller ou il ne faut pas y aller? J'ai énuméré voilà, les inconvénients, voilà c'est en conclusion. Vous devez y aller, parce que quand un peuple a accepté tous les dangers, qu'il a fait partir le chat, alors juste au moment où vous devez montrer le courage nécessaire pour le rencontrer ce peuple, et vous dites que parce qu'il y a de dangers, je reste en France, vous êtes fini.
L'Orient est aujourd'hui consacré à Abolhassan Banisadr, ancien président de la République islamique d'Iran, aujourd'hui en exil en France, dans la région parisienne. Donc vous voilà à Téhéran et il s'agit de reconstruire un pays qui est en chaos, qui a été en grève générale pendant de très nombreux mois. Mmh. Vous êtes un spécialiste de l'économie. Quelle est l'étendue du défi qui vous attend ?
En ce qui concerne l'économie, oui, c'était une économie en état catastrophique. Les argents tous partis. Et les banques vides, État endetté, le peuple en grève et les chômeurs qui manifestaient tous les jours. Voilà, c'était la situation. Et d'ailleurs, tout le monde essayait de, autant que possible, vendre ce qu'ils ont pour obtenir de devises et sortir. Donc c'était une situation très très grave. On a changé les structures du budget de l'État. Changer la structure des importations, changer la structure des crédits de banque en nationalisant les banques, bien sûr. Étant donné que les entrepreneurs tous profitaient de leur entreprise pour obtenir autant que possible des crédits de l'État venant du pétrole, tous endettés, la plupart abandonnés, on a nationalisé toute cette industrie et plus important que tout cela, on a fait, disons, monter les prix des denrées alimentaires et tout, le salaire minimum. Alors, on a changé l'axe de l'économie, d'une économie basée sur la consommation, c'est-à-dire les importations. On a essayé de faire une autre économie basée sur la production. Et le résultat a été très extraordinaire. Personne ne pouvait pas y croire. Les banques se sont mises au travail. Et de revenus par ménage dans les villes et dans les villages ont dépassé les dépenses par ménage.
Mais vous ne restez pas très longtemps en finance parce qu'on a besoin de vous aux affaires étrangères. Mais même ça, c'est un intérim parce que la grande affaire, c'est la préparation de l'élection présidentielle. Mmh. Et vous êtes candidat à la présidence de la République. Il y a 9 autres candidats. Et lorsque le scrutin se tient le 25 janvier 1980, vous êtes élu avec presque 79% des voix. Et il faut bien le dire, le soutien de l'ayatollah Khomeini.
D'abord, il y avait 124 candidats.
124
candidats. Ah, c'était une de mes conditions, M. Khomeini, que la candidature doit être libre. Je veux dire qu'on est sorti d'une dictature, et maintenant, première chose, c'est qu'il faut savoir quelles sont les tendances dans ce pays. Donc, il faut qu'il n'intervienne pas en ce qui concerne la candidature. Il a accepté. Donc, il y avait 124 candidats. Alors, malgré tout, des responsables de radio-télévision iranienne, ils n'ont donné l'antenne qu'à 9.
C'est donc la raison de mon erreur. Ah,
voilà. Alors, je suis élu par 76% de voix, mais ceux qui, après moi, ils avaient obtenu des pourcentages convenables, tous, sans exception, n'étaient pas d'accord avec la mainmise des mollahs sur l'État.
Je reviens quand même à la candidature. Vous avez dit, il faut pas que vous, Ayatollah Khomeini, vous donniez votre préférence. Mais à l'époque, tout le monde a le sentiment que c'est vous, le candidat de Khomeini.
Non, justement. Il m'a dit pour 3 raisons, vous devez pas devenir président. Première raison, parce que j'étais pas d'accord avec le principe de souveraineté du docte.
Voilà. Ce qu'on appelle voilà, le Ayatollah
Paris. Deuxième raison, j'étais pas d'accord, selon lui, avec la propriété privée. Il me pensait socialiste, même très à gauche. Troisième, c'est que je voulais écarter les mollahs des affaires de l'État. Pour ces 3 raisons, je ne devais pas devenir président.
Et pourtant, il a accepté le résultat, il a travaillé.
Quand même, il a accepté. que je devienne candidat et devenir président, parce que à ce moment-là, ils savaient très bien que l'opinion publique est de mon côté. Interdire celui que le peuple aime et veut voter pour lui, dire que non, il n'a pas la compétence pour devenir président, ça, se mettre directement contre la volonté de son peuple. Et ça, dans la mémoire du populaire, c'est redevenir le chat, et même pire que le chat. Il y avait une autre raison aussi. Il était malade. Quand les élections se déroulaient, il était hospitalisé, et même, il paraît que les médecins, certains médecins avaient préconisé qu'il ne peut pas survivre maximum 3 mois. Donc, il ne voulait pas qu'il quitte ce monde, qu'il laisse comme mémoire de lui, c'est lui qui a empêché ce peuple de choisir son président.
7 mois après votre élection, se passe un autre événement qui va changer radicalement le cours de votre présidence. Mmh. C'est l'invasion de l'Iran par l'Irak. Saddam Hussein déclenche une offensive le 22 septembre. Et vous, le président civil, vous devenez chef de guerre en quelque sorte.
Mmh. Oui, celui qui détestait la guerre. Et maintenant, il devait défendre son pays par les armes.
Et vous étiez contesté aussi à Téhéran par d'autres de vos collègues. Et en allant sur le front, vous allez reconquérir une légitimité interne de cette façon.
On contestait par qui? C'est parce que le peuple m'aimait, il avait voté pour moi.
Oui, mais il y a des hommes politiques à Téhéran qui étaient moins d'accord.
Hein, disons le mot-là qui voulait leur dictature, c'est vrai. Ils ne voulaient pas que je reste comme président. Et c'est pourquoi, juste au moment du premier jour de la guerre, disons la prise de contact, c'était beaucoup plus avant, avec le groupe Reagan-Bush, candidat pour la présidence, l'élection présidentielle de 1980, en ce qui concerne les otages américains. Donc, ils avaient pris contact pour un compromis, garder les otages jusqu'à les élections américaines, afin que Carter soit battu par Reagan, et obtenir comme récompense les armes que l'Iran avait besoin. Pourquoi cela, sans que le président soit au courant?
Le président n'était pas au courant, mais est-ce que l'ayatollah Khomeini était au courant?
Certainement était au courant. Après, M. Rafsanjani a publié ses mémoires de cette année-là, et une lettre écrite par lui et M. Behishti, ce même Khomeini, deux autres, à M. Khomeini, disant que, bon, l'élection de vernissage nous empêche d'établir un autre État. Et c'est Khomeini qui les a dit, c'est pas grave, essayez d'avoir le Parlement pour vous. Donc il a permis la fraude électorale pour que le Parlement devienne leur Parlement. Donc quand les Irakiens ils ont attaqué l'Iran, on était dans cet état des choses. Au 19-20 octobre, un compromis a eu lieu ici en France, à Paris, entre les hommes de M. Reagan-Bush avec les hommes de M. Khomeini, Khomeini, Rafsanjani, tout ça. Pour ce compromis qui a fait que les otages sont restés jusqu'à les élections et que Carter a été battu.
Et donc vous, président Bannissadre, vous vous battez sur deux fronts, voilà. Contre l'Irak devant et contre les manœuvres dont vous parlez à Téhéran.
Je parlais de tout cela sous le titre coup d'État rampant. De ceux qui voulaient établir une dictature en Iran, restaurer la dictature du Shah sous un autre nom. Sur le plan intérieur, déjà, nous avons réussi à faire quelque chose. C'est que Khomeini, qui au début était accepté par l'ensemble du peuple, le référendum, 98% ils ont voté pour. Juste au printemps de 1981, il a dit si 35 millions d'Iraniens disent oui, je dirais non.
Donc vos soutiens disparaissent au niveau du pouvoir les uns après les autres. Le Parlement vous destitue très certainement avec l'accord de Khomeini. Vous savez que vous risquez l'arrestation d'un moment à l'autre et vous prenez la décision de quitter le pays. Dans quelles conditions vous êtes parti pour la France?
Disons qu'au début, on disait qu'on reste en Iran, on prépare le peuple pour qu'il réagisse. On ne savait pas que M. Khomeini est capable de tirer sur le peuple. Ça, personne ne croyait pas, et moi non plus. Et il y avait des amis qui me disaient, vous trompez vous-même toujours, encore, détrompez-vous. Il tire sur le peuple, soyez en sûrs. Je ne le croyais pas, mais j'ai constaté qu'effectivement, il a tiré, parce que le peuple est sorti pour défendre son président, et que les passards, ils ont tiré sur ce peuple. Ça, qu'on s'atteste tout cela, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Étant donné ce rapport secret, si vous voulez, ce compromis secret avec les Américains, et que on savait que le coup d'État, parce qu'ils pouvaient attendre 4-5 jours afin que la guerre prenne fin, parce que la déléguée de pays non alliés devait venir avec la réponse de Saddam pour la fin de guerre, les conditions acceptables de deux côtés. Alors c'est du bureau du premier ministre iranien qui a téléphoné au ministre des Affaires étrangères cubain. Ne venez pas, passe des choses en Iran, attendez, on vous informe quand vous devez venir. Et jamais ils n'ont pas été informés, parce qu'ils ont fait coup d'état pour que la guerre continue. Leur dictature l'exigeait, que la guerre continue. Donc ils ont fait coup d'état, qu'est-ce que je devais faire? Alors on a fait une réunion avec nos amis. On a dit qu'il faut sortir de l'Iran et aller où on peut continuer aider ce peuple pour qu'il retrouve sa liberté.
Mais comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que vous étiez surveillé.
Non, j'ai sorti le soir de ma résidence. Je suis allé d'abord chez deux personnes qui étaient des amis. Et c'était là que les Mujahidines du peuple m'ont contacté. On a discuté concernant les principes, les libertés, l'indépendance et tout. Alors j'ai fait un pacte et j'ai chargé M. Rajavi de former une coalition pour la résistance. C'est eux qui ont organisé la sortie de l'Iran. Ils sont venus sur la base militaire, on a pris un avion et on est sorti de l'Iran.
Vous arrivez donc en France, vous vous installez avec M. Rajavi, donc le chef des Moudjahidines du peuple, et une partie de son équipe, dans un petit village de la région parisienne, Auvers-sur-Oise, le village de Van Gogh. Et vous allez vivre quelques années, je dirais, ensemble. C'est un pacte politique qui va d'ailleurs très loin, puisque je crois que M. Rajavi épouse votre fille à ce moment-là. À partir de quel moment vous vous rendez compte que le chemin politique que vous avez pris n'est pas le même que celui des Moudjahidines du peuple?
Bon, dès le début, je lui ai dit... J'avais confiance, 100% confiance en Khomeini, et j'ai pas du tout confiance en vous. 0%.
Ça commence bien.
Donc, on entre, si vous voulez, dans un... qu'est-ce qu'on peut traduire en persan? Le terme coranique, c'est ibtila. Ça veut dire un essai politique. On va voir. Voilà, ce pacte a trois principes. L'indépendance, la liberté et non à l'hégémonie. Vous ne devez pas exercer une hégémonie sur les autres. Bon, il a accepté, signé, tout. Un jour, il est venu me voir. D'abord, avant cela, Edgar Pisani m'a contacté pour me dire que Tariq Aziz aime vous voir. Je dis non, je n'accepte pas. Comment voulez-vous que... Je suis ici à cause de cette guerre, de l'attaque irakienne, et maintenant, rencontrer son ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que cela signifie? Une heure plus tard, c'est Rajavi qui est venu me voir. Il m'a dit que Tariq Aziz m'a demandé une rencontre et je l'ai accepté. Et comment vous avez pu accepter? Voilà qu'il y a une heure que j'ai refusé. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis que bon, vous devez lui parler en tant que représentant d'un pays attaqué injustement et que votre rencontre soit très bref. Et que vous restiez fidèle absolument à ce principe de l'indépendance, de manière que l'Irak ne puisse profiter de cette rencontre, quoi que ce soit. D'accord. Mais le lendemain, il est venu 5 heures.
Et donc vous vous êtes séparés sur l'attitude à avoir vis-à-vis de l'Irak qui était l'ennemi de l'Iran.
Voilà, bon.
L'Iran est un pays jeune, la plupart des Iraniens n'étaient pas nés quand vous avez quitté votre pays, donc ils n'ont pas connu l'époque où vous étiez président, ils n'ont pas connu la révolution iranienne. À votre avis, comment la jeunesse iranienne d'aujourd'hui voit l'avenir du pays? Quelles sont ses aspirations aujourd'hui?
Vous savez, pendant l'époque du Shah, il y avait plusieurs méthodes pour faire une révolution. Il y avait plusieurs organisations de l'époque qui faisaient lutte armée. Moi, j'étais partisan de mouvements populaires, généraux et spontanés du peuple, spontanément organisé avec des principes simples qui conviennent à tout le monde. L'indépendance, la liberté, le progrès basé sur le principe de la justice sociale. Alors, a eu lieu ce mouvement généralisé à l'époque du chat. Il a fait partie de chat. Aujourd'hui, la jeunesse, il a repris exactement le même chemin. Il ne s'agit pas d'un parti politique ou d'une organisation avec une lutte armée ou non armée. Il s'agit d'un peuple qui est en mouvement. Et ce peuple en mouvement, qu'est-ce qu'il veut? Exactement les mêmes choses qu'il y a 30 ans. L'indépendance était écrite. Il y a avec une différence très significative. Parce que l'indépendance, c'est l'indépendance de l'époque. Liberté, c'est liberté de l'époque. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de Jumhuri islamique.
République islamique.
Il s'agit de la République iranienne. Khomeini, ici à Paris, dit que la souveraineté revient au peuple. C'est le peuple souverain. Et aujourd'hui, ce peuple dit que c'est moi souverain.
Merci infiniment à Abolhassan Banissadr d'avoir accepté de participer à Portrait d'Orient.